Après la prédication, on aura un chant et après le chant, ça sera bien qu'on puisse mettre les chaises, je le dis un peu à l'avance, parce qu'après moi je peux oublier de mettre les chaises sur les côtés, parce qu'on aura une collation, donc il faudra installer les tables, il y a de quoi aussi faire descendre les plats. Voilà, donc restez après le culte, hein, qu'on puisse continuer à vivre ce temps de communion fraternelle et de joie à travers ce baptême. Nous avons l'habitude dans l'Église de demander au futur baptisé le texte qu'il aimerait qu'on prêche pour son baptême. Et quand j'ai demandé à Joachim, il m'a dit « Papa, j'aimerais que tu prêches sur Matthieu 5 en entier. » J'ai fait « Matthieu 5 en entier, mon fils. » Il y a beaucoup de choses à dire. C'est peut-être un des passages les plus beaux de la parole, hein, la prédication de Jésus, Matthieu 5, 6 et 7. Mais j'ai dit « Matthieu 5 Non, ça va être trop compliqué. » Et puis il est revenu sur un autre texte. Il m'a dit alors Tite 3. Et là, je lui dis, excellent passage pour un baptême. Excellent passage. C'est un livre que j'apprécie particulièrement aussi, hein, de par mes lectures et de par le fait que je l'enseigne depuis plusieurs années à l'école biblique. Mais c'est vraiment un texte qui correspond vraiment à un contexte de baptême. Alors, je vous invite à prendre ce texte qu'il a choisi. Tite, au chapitre 3, versets 1 à 8. Tite 3, versets 1 à 8. Driss, tu peux me chercher un verre d'eau. Merci. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Tite et il veut l'encourager. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, il parle aux chrétiens, hein, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Merci, Driss. Avant de rentrer dans le texte et de voir l'initiative souveraine et gracieuse de Dieu dans la vie d'une personne, on va faire un peu de contexte et voir qui est Tite, hein, qui est ce personnage à qui Paul écrit. Tite, c'est un chrétien qui était non-juif, ce qui est assez rare à cette époque-là. La plupart des chrétiens avaient un arrière-plan juif. Mais Tite était un chrétien non-juif. On n'a pas beaucoup d'infos sur lui, mais il est possible que Tite et voyager avec Paul, hein, l'apôtre Paul, qui lui était un vrai juif, chef religieux, docteur de la loi, et qui est devenu chrétien. Et il faisait ses voyages missionnaires un peu partout dans l'Europe et le Proche-Orient. Et il aurait accompagné Tite. Et à un moment donné, ils vont passer en Crète, dans l'île de Crète, et ils vont rester pour évangéliser. Et Paul va laisser sûrement Tite là, pour mettre en place, structurer les églises locales et enseigner. Et on peut voir ça dans le verset 1 de Tite, 1-5, qui dit ceci, « Je t'ai laissé en Crète, donc c'est Paul qui parle, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc on voit l'apôtre Paul qui veut le laisser pour mettre en place, structurer les églises. Et Tite, on voit aussi au verset 9, il devait avoir une bonne connaissance de la parole pour être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça, on peut le voir au verset 9. « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin que tu sois capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Donc, l'objectif de Paul pour Tite, c'est d'enseigner la sainte doctrine et de savoir réfuter les contradicteurs qui arrivaient dans l'Église. On le voit aussi au chapitre 2, verset 1, il dit « pour toi, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc Paul voulait, et Dieu voulait que Paul dise à Tite qu'il enseigne la saine doctrine aux églises en Crète. Alors cette saine doctrine, ça peut englober plein de choses, hein. Ça comprend l'enseignement de la divinité du Christ, du sacrifice de Christ, de la résurrection du Christ, de la nature rebelle et pécheresse de l'homme, de la souveraineté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la régénération, de l'autorité, de la suffisance de la parole de Dieu, et d'autres sujets qu'on retrouve dans Tite et dans d'autres passages que Paul a écrits. Donc la saine doctrine, c'est un sujet qui est large, mais la saine doctrine est tellement, tellement, tellement importante. La saine doctrine, c'est pas inventé par les hommes, hein, des fois j'entends ça. Non, la saine doctrine, c'est Dieu qui en parle et c'est écrit ici dans la Bible. Mais pourquoi c'est important? C'est important la saine doctrine parce que 2 Timothée, Paul, quand il écrit à un autre de ses petits protégés, hein, là c'est des lettres personnelles, hein, que Paul écrit, c'est des gens qu'il a mis en place pour diriger des églises locales. Si on peut lire dans 2 Timothée, au chapitre 4, versets 3 à 4, voilà pourquoi c'est important la saine doctrine. Et pourquoi Timothée, Tite et d'autres devaient aussi prêcher ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, tout ce qu'elle englobe, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 4. Ces personnes qui ne supporteront pas la saine doctrine, pardon, cela a toujours existé. Ça existait déjà au temps de Paul, de Tite, ça existait déjà. Mais je crois que cela s'intensifie de plus en plus et que c'est un signe qui est de plus en plus visible à notre époque. Aujourd'hui, chacun veut faire ce qui lui semble bon. L'être humain veut déterminer le cahier des charges de son propre Dieu ou de sa propre vie, au lieu de se soumettre au cahier des charges du Dieu créateur, du Dieu qui a déjà tout déterminé dans sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, un livre extraordinaire, un livre écrit sur 1400 ans par 40 auteurs différents avec une cohérence parfaite. Aucun livre est comme ça, parce que c'est Dieu qui est derrière ça. Et Dieu, dans sa grâce, il a dit « Je vais me révéler aux hommes et je vais leur parler à travers la Bible. » Un des aspects importants de la sainte doctrine qu'on va voir ce matin, et qui est le thème du message, c'est l'initiative souveraine et gracieuse de Dieu dans la vie d'une personne. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie de Joachim. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas une église. C'est l'œuvre de Dieu. Ce qui s'est passé dans la vie de Joachim, c'est l'œuvre de Dieu. Et on va voir que Paul affirme que le salut éternel d'une personne ne vient pas des mérites humains, de ses œuvres, mais de la grâce et de la miséricorde de Dieu seulement. Seulement. Nous verrons que ce n'est pas du donnant-donnant avec Dieu. Il est impossible à l'homme de rembourser Dieu. C'est impossible. Pourtant, les religions ont créé ça un peu. Il est impossible à l'homme de payer le prix qu'exige le péché parce que la nature humaine est marquée par le péché. Nous verrons aussi que cette nouvelle naissance spirituelle conduit à vivre selon les normes de Dieu et à faire des œuvres pour honorer Dieu. Alors on va commencer avec cette première question. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'agir souverainement et gracieusement dans la vie d'une personne? Pourquoi? Pourquoi ce titre? Parce que sa création est rebelle. C'est pas très rassurant tout ça. Ni glamour, ce que je suis en train de dire. Au verset 3, Paul parle de la condition humaine sans Dieu. Une condition humaine marquée par le péché. Relisons le verset 3 ensemble. Car nous aussi, il parle des chrétiens à Crète. Car nous aussi, Tite s'inclut, Paul s'inclut. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Dans certaines de vos traductions, vous pouvez aussi trouver le mot stupide à la place d'insensé, le mot rebelle à la place de désobéissant, esclave de toutes sortes de passions aussi à la place de convoitise ou de plaisir. Hein. On vivait dans la méchanceté, nous étions odieux, nous nous détestions. C'est ça que le texte est en train de dire. Paul rappelle aux chrétiens de Crète qu'il y a un autrefois et un maintenant. Nous étions autrefois. Il s'est passé quelque chose. S'il dit autrefois, nous étions comme ça et on vient de voir un descriptif de la condition de l'homme et qu'il y a un maintenant, c'est que Paul est en train de dire, autrefois, votre condition sans Dieu, voilà comment vous étiez. Paul aurait pu dire, mais non, moi j'étais un chef religieux, je respectais la loi. Non, Paul s'inclut aussi dans cet état de cœur. Paul leur rappelle les effets de l'homme sans Dieu, stupide, désobéissant. Puis il continue avec cette image, regardez le texte, avec l'image de l'esclavage. L'être humain est esclave de ses désirs, de ses passions, de ce que son cœur désire charnellement. Nos cœurs désirent plein de choses dans ce monde, qui sont palpables, comme l'argent. Hein, avoir de l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, la sexualité, l'épanouissement personnel. Et la liste peut être tellement, tellement longue. L'esclavage des passions et de convoitises. C'était ma vie. Pour en arriver aux conséquences, qu'est-ce qu'il dit ? Des comportements destructeurs. C'est l'idée ici d'une pensée méchante à de la haine visible. Même la religion, on arrive là. Même la religion, on arrive à vouloir tuer. Et Jésus avait déjà dit ça. C'est ça qui est extraordinaire. Rien de nouveau sur le soleil. Jésus avait dit en Jean 16, 2 que même sous l'apparence de la piété, ils vont tuer des gens croyant faire ça bien au nom de Dieu. L'histoire nous le montre. Et encore aujourd'hui, malheureusement. Regardez ce que Jésus avait dit en Jean 16, 2. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ça, c'est le cœur de l'homme, même sans Dieu. Paul rappelle aux chrétiens de Crète leur cœur d'autrefois sans Dieu. Il leur rappelle leur vie en dehors de l'œuvre de la grâce de Dieu. Un cœur qui reflétait le cœur de l'ennemi de Dieu. Et ça, c'est le cœur de tout homme. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est une réalité. C'est le cœur de l'homme. C'est notre cœur. J'aime beaucoup un autre passage, qui est un de mes passages aussi. Je ne sais pas préféré, ce n'est pas trop juste comme mot, mais un passage que j'aime beaucoup, qui montre vraiment la réalité de notre cœur pour mieux apprécier la grâce de Dieu. C'est Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et Paul donne des infos complémentaires concernant le cœur humain autrefois. Et c'est quand il écrit aux chrétiens à Éphèse, une ville en Turquie. Il dit en Éphésiens 2, 1, 3. Vous allez voir, ça se matche bien. Parce que Paul est un théologien qui est carré, hein, qui est clair dans ce qu'il veut expliquer. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez, même mot, autrefois, selon le train de ce monde. Ce monde-là, il y va. Hein, c'est une ligne à grande vitesse. Hein. Selon le prince de la puissance de l'air. Ça, il parle de Satan, de l'ennemi de Dieu, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ce que nous étions. Nous tous aussi, il parle de lui comme ça, Paul aussi. Nous étions de leur nombre. Nous vivions, il répète, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature, très fort ce mot, par nature, des enfants de colère comme les autres. Dieu dit ici que l'être humain est mort spirituellement à cause de sa nature pécheresse. Il dit aussi que l'être humain est par nature enfant de colère. Elles sont violentes ces expressions. Si vous les entendez pour la première fois de votre vie, je comprends qu'elles sont violentes. Mais c'est ce que tout être humain est sans l'intervention de Dieu. C'est le portrait de l'homme sans Dieu. Je vous le répète, c'est ce que j'étais. C'est ce que tous les hommes sont en fin de compte. Pourtant, je vous le dis franchement, je n'ai rien demandé à ça. Quand je suis venu dans ce monde, tout comme Joachim, nous n'avons rien demandé à ça. Mais il n'y a pas que l'homme qui est impacté par le péché. Il n'y a pas que l'homme qui, où ça tourne par rond. Toute la création tourne par rond. Et ça, c'est écrit aussi dans la Bible. Regardez Romains 8, 20, 23. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Il parle de toute la création, hein. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, autant les arbres que les animaux, soupirent et souffrent les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant quoi ? L'adoption et la rédemption de nos corps. Mes amis, l'univers dans lequel nous vivons manifeste jour après jour, seconde après seconde, les effets du péché. Par quoi ? Par sa futilité, par sa corruption, par sa maladie, par sa dégénérescence, par ses drames quotidiens, par ses catastrophes. C'est une réalité. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est une démonstration visible des horreurs du péché. C'est le monde dans lequel nous aimerions des fois fuir. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi ? Comment ça est arrivé tout ça ? Et c'est encore important que je vais prendre le temps d'expliquer ça ce matin dans la Bible pour mieux apprécier l'initiative de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais juste avant de revenir sur ça, j'espère que vous appréciez aussi ici dans ce passage qu'il y a de l'espérance. Dans ce passage aux Romains, il dit « il y a de l'espérance ». Le but de Dieu est que la création entière, il dit, vive aussi une régénération, une nouvelle vie. Dans la Bible, des fois, on parle d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et quand on parle de la régénération ou de nouvelle naissance, si vous voulez, hein, pour un être humain, c'est juste un premier volet. Le but de Dieu est un monde renouvelé, avec des corps renouvelés, des âmes renouvelées, des relations renouvelées sans péché. Les relations, c'est complexe. Dans quel but ? Afin que Dieu soit loué et glorifié. Qu'il n'y ait plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies. Ça, c'est le but de Dieu. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de cette régénération et de cette nouvelle naissance est que Dieu n'accueillera personne sans régénération et nouvelle naissance dans ce lieu qu'il est en train de préparer. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus, il a dit en Jean 3, 3, dans ce passage magnifique avec Nicodème, dans ce face-à-face de cœur à cœur tellement beau. Il lui dit, à moins que nous soyons nés de nouveau, régénérés, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons être régénérés, nés de nouveau, et je reviendrai cela dans le point 2. Mais je reviens à ma question. Pourquoi le monde dans lequel nous vivons est une démonstration visible des horreurs du péché ? Pourquoi j'ai cette nature pécheresse ? D'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Et la meilleure des explications, mes amis, le monde, la philosophie, n'arrive pas à répondre à cette problématique. N'arrive pas, c'est trop complexe. Mais Dieu répond à ça. Il explique pourquoi. Le monde dans lequel nous vivons, tout d'abord, ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire du Créateur. C'est pas votre histoire. Hein. Pour les meilleurs d'entre nous, ça va être 90 ans. L'histoire continue. Elle a commencé avant vous. C'est Dieu qui est l'auteur de l'histoire. Et il faut qu'on se plonge quelques instants dans la grande histoire de Dieu pour comprendre cette condition humaine marquée par le péché. Et je vous assure, ça nous permet de mieux comprendre l'initiative souveraine et gracieuse de Dieu dans notre vie et d'apprécier encore plus qui est Dieu. Dieu a créé l'être humain. Je crois que Dieu a créé l'être humain, non parce que Dieu s'ennuyait ou qu'il avait une carence affective. Hein. Il ne nous a pas créé parce qu'il dit, tiens, je vais mettre des personnes qui vont me dire, oh, je t'aime, je t'aime. Non, il n'a pas besoin de ça. Dieu, par nature, est suffisant à lui-même. Mais Dieu a fait le choix de créer l'homme et la femme pour qu'il le reflète, pour qu'il reflète qui est Dieu. Ça, on le voit dans Genèse 1. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec lui aussi, de la grâce. Mais en Genèse 3, il se passe quelque chose. La création que Dieu a faite, Adam et Ève, un homme et une femme, ont fait le choix d'être rebelles à Dieu. Ils ont voulu être indépendants de leur Créateur. Ils ont cru trouver leur satisfaction en dehors du Créateur. Rien de nouveau aujourd'hui. Hein. Ils ont préféré adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Hein. C'est comme si dans une petite montre, la grande aiguille commençait à préférer la petite aiguille ou essayer de comprendre comment ça fonctionne entre petite et grande aiguille, sans essayer d'aller voir l'horloger. Celui qui sait le fonctionnement de la montre parfaitement, c'est l'horloger. Ce n'est pas le mécanisme ou toutes les petites pièces qui sont dedans. Mais là, vous me dites, Florence, c'est sympa ton rappel historique, mais en quoi cela me concerne-t-il jusqu'à présent ? Et en quoi ce passage a un lien avec notre passage de Tite et Éphésiens des milliers d'années plus tard ? Cette nature d'enfant de colère, cette nature pécheresse qu'on a lue tout à l'heure dans Éphésiens et qu'on voit aussi dans Tite, c'est Adam qui l'a fait rentrer dans le monde. C'est Adam qui l'a fait entrer dans le monde et Adam a fait quelque chose de terrible par la suite, il a transmis à ses enfants. Vous connaissez l'histoire de Caïn, ce n'est pas une légende. Hein. Comment le meurtre est rentré dans le monde. Adam a transmis la nature pécheresse et un des fruits de la nature pécheresse, il y en a tellement, c'était une haine meurtrière. Pensée méchante qui emmenait à la haine. C'est ce que Tite est en train de dire. Paul disait ça à Tite. Et Adam est le représentant de l'humanité. Il a embarqué toute l'humanité dans cette rébellion contre Dieu. Il a embarqué toute l'humanité dans cette mort spirituelle. Et ça, c'est Romains 5 qui nous le dit. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et au verset du suite, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Mes amis, c'est comme un représentant d'un pays qui déclare la guerre à un autre pays, il embarque toute sa nation en guerre. Toute sa nation, il embarque en guerre, parce qu'il est le représentant de la nation. Et j'ai malheureusement, mes amis, transmis cette nature à mes enfants et à Joachim aussi. Joachim est né avec une nature pécheresse. Joachim n'a rien demandé pour naître dans ce monde et d'hériter de cette nature pécheresse, rebelle à Dieu. Et ça, c'est ce que David dit aussi dans le psaume 51. Qu'est-ce que dit David au psaume 51, magnifique psaume, au verset 7 ? « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Tous, sans exception. Joachim aurait pu faire les meilleures actions du monde. Son problème est sa nature intérieure. Et nos actions n'ont aucune capacité à pouvoir changer notre nature. On aimerait. Et c'est pour ça qu'on a créé les religions. Les religions ont été créées en espérant gagner des points pour avoir les faveurs de Dieu. Mais ce n'est pas un problème de gagner des points pour les faveurs de Dieu, c'est un problème intérieur. Les meilleures actions des hommes dans ce monde sont là pour mettre souvent l'homme en avant, mettre en avant la créature, mais rarement le créateur. Moi, moi et moi. Et la réalité de ce monde, il suffit juste qu'on regarde un peu les infos, c'est plus souvent des actions insensées, désobéissantes, égarées, asservies à toute espèce de convoitise et de désir, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est plus la réalité de notre monde. Notre monde, sans faire de jumeaux, je ne sais pas pour vous, mais il tourne par rond quand même. Cette semaine, quand je vois que deux adolescents de 14 et 15 ans ont tué un enfant de 11 ans pour une canne à pêche, mes amis, il y a un problème. Il y a un problème. Le monde ne tourne pas rond. Je parle de ça en France. Société éduquée, élevée. Qu'on soit croyant ou pas, c'est un constat que nous pouvons faire. Et la cause est le péché dans ce monde. Et si on s'arrête là, si je vous dis maintenant on s'arrête, on va prendre la collation et on s'en va, c'est vraiment une vision pessimiste du monde. Et c'est pour ça que les hommes et les femmes dans ce monde n'ont pas d'espérance. C'est pour ça que ça va de plus en plus mal. C'est pour ça qu'on a même mis en place de plus en plus une société psychologisée, qui veut même maintenant plus appeler ça le péché, mais essaye de mettre d'autres mots, parce que c'est trop dur de parler de ce mot-là. On est obligé de venir avec un Dieu. Mais le verset 4 de Tite et le verset 4 d'Éphésiens 2 donne tellement d'espoir, tellement d'espérance. Parce que Dieu va intervenir par grâce. C'est ce que dit le texte. Paul apporte une nouvelle perspective et Paul va enseigner sur ça. C'est une bonne nouvelle que les chrétiens ont besoin de se rappeler jour après jour et que le monde a besoin d'entendre. Versets 4 à 7, regarde avec moi. L'initiative souveraine et gracieuse de Dieu. Mais lorsque les êtres humains ont commencé à faire plein de bonnes choses pour Dieu, alors non ! Et c'est la même chose dans Éphésiens 2 au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, impossible, mais selon sa miséricorde et par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Dans ces versets 4 et 7, nous voyons uniquement, et uniquement, à moins qu'on me démontre autre chose, l'initiative de Dieu et sa grâce à l'égard d'une personne. Le rôle de l'effort humain est exclu de l'équation d'entrée avec Paul. Il dit non à cause des œuvres que nous avons faites dans la justice. Et aux Éphésiens, il a dit quoi ? Regardez Éphésiens 2, 8 à 9. C'est vraiment le passage parallèle. Il dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Dans quel but ? Afin que personne, personne ne se glorifie. » C'est violent, c'est horrible pour un être humain. On n'aime pas ça. On veut toujours avoir le mérite dans quelque chose. C'est grâce à moi. Mais Dieu dit non. C'est ce que Dieu dit ici. L'être humain est perdu. Il a besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie. Il a besoin d'un sauveur parce que mon cœur est dur, mon cœur est résistant et surtout, mon cœur est mort spirituellement. Alors Paul rappelle aux chrétiens que s'ils sont sauvés, c'est dû à la bonté, à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Voilà le Dieu dans lequel je crois, le Dieu que je sers, le Dieu qui est venu m'arracher de ma misère il y a bien des années. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Je le répète, il faut l'entendre. Parce qu'il est bon, aimant et miséricordieux. C'est sa nature. Alors la question c'est, comment Dieu agit-il? Alors là, le texte nous parle d'un Dieu sauveur qui s'est manifesté. Alors comment ce Dieu-là, invisible, pas très palpable pour nous, comment il s'est manifesté? Le texte nous dit qu'il s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Dieu a quitté sa gloire, il s'est incarné en la personne qu'on appelle Jésus-Christ pour justement manifester sa bonté, sa miséricorde et son amour de manière visible. Il est venu toucher sa création, rebelle à lui et qui ne voulait pas de lui. Et c'est ce qu'il a fait. Christ est juste, sage, obéissant, sans péché. Vous pouvez lire les évangiles. Il est venu toucher des gens qui ne méritent pas le salut. Il est venu toucher des gens qui ne méritent pas la régénération. Il est venu toucher des gens qui méritent la juste colère de Dieu qu'exige le péché. Il est venu toucher ce genre de personnes. Le péché exigeait un prix très fort. Le péché exigeait un sacrifice. Mais un sacrifice parfait. Un sacrifice prêt à mourir pour des gens qui vous détestent. Je l'ai dit dans une de mes prédications dernièrement, jamais j'offrirai un de mes enfants pour quelqu'un qui serait violent avec moi ou avec eux. J'en ai pas la capacité. Je n'ai pas assez d'amour, de bonté, de grâce en moi pour ça. Mais Dieu, c'est ce qu'il a fait quand il a regardé sa création, quand Christ est sur la croix et qu'il les regarde tous en train de crier, de cracher, de l'insulter. Et lui, il est là, accroché. C'est un fait historique, je vous parle. Hein. On ne parle pas d'une fable, là. Hein. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il le dit encore aujourd'hui. Ça retentit encore aujourd'hui, ces phrases. Lui, il a payé le prix du péché. Il a pris le prix de ma condamnation. Son sacrifice a été déclaré parfaitement juste. Et Christ est devenu le représentant des personnes justifiées, comme si on était dans un tribunal et qu'il y a les coupables et que Christ vient payer la rançon pour me déclarer juste. Pas par moi, grâce à lui. Il est un nouveau représentant. Tout comme Adam nous a transmis cette nature pécheresse, Christ nous donne une nouvelle nature par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que le texte dit. Cette œuvre de l'Esprit découle de l'œuvre de Christ. Verset 6, il dit « Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Donc il est question d'une régénération, d'une nouvelle naissance spirituelle grâce à l'œuvre de Christ. Mais comment cela se passe-t-il? Comment se passe-t-il, moi qui étais rebelle, qui ne voulais pas de Dieu dans ma vie, ça a été une partie de ma vie, et d'un seul coup, pourquoi je me suis mis à croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés? Comment ça se fait qu'à un moment donné, j'ai cru que la Bible, ce qu'elle disait, c'était vrai? Comment c'est passé? Comment Joachim, qui dit qu'il ne comprenait pas des choses de Dieu, pourtant il a grandi dans une famille chrétienne, et qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose? J'ai pas de laser pour voir ce qui s'est passé dans sa vie. Mais Dieu a œuvré dans sa vie de manière invisible par ce qu'on appelle la régénération et le baptême du Saint-Esprit. Et l'image que Paul utilise, c'est vraiment ce mot baptême, hein, l'idée d'être immergé. Il a été comme s'il était purifié pleinement, totalement, un nettoyage spirituel. On ne parle pas de l'eau du baptême hein, dans ce passage. Le baptême d'eau, que je vous ai dit tout à l'heure, nous permet juste de comprendre cette action et cette œuvre invisible. Hein? C'est comme cette œuvre qui est invisible, hein? C'est ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est, j'étais sans Dieu, rien, et d'un seul coup, Dieu il a fait quelque chose. Foum, il m'a immergé dans de l'eau spirituellement, hein, c'est une image. Il m'a ressorti, il m'a purifié. Il m'a accordé son pardon. Il m'a accordé sa grâce. Il m'a recréé. Le texte parle aussi de renouvellement, c'est les mêmes actions. Hein, c'est, tout est pareil, tout est ensemble là. Hein. Il m'a recréé. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi, qui a été spirituel. Et ça, c'est le Saint-Esprit qu'il a, qu'il a fait. Il y a eu deux changements forts. Tout un être qui a été purifié et recréé. Mais vous êtes toujours vous après la nouvelle naissance. J'ai toujours été Florent après que Dieu est venu me transformer et ouvrir les yeux de mon cœur. J'ai toujours été Florent quand je suis passé par les eaux du baptême et que j'en suis ressorti. Vous êtes toujours vous après la nouvelle naissance. Mais Dieu est intervenu souverainement et gracieusement dans votre vie. Vous étiez aveugle, j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais mort spirituellement et maintenant je vis. J'avais aucune espérance et maintenant j'ai une vraie espérance. J'étais condamné et maintenant je suis déclaré juste. Voilà ce qu'est la régénération. Voilà qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance dans la Bible. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci aussi, par rapport à l'idée de renouvellement. Si quelqu'un est en Christ, il faut être en Christ, elle est une nouvelle créature. Ce n'est pas un film de science-fiction, hein. Il n'y a pas des choses qui changent, qui ont poussé dans, ou des choses qui poussent en chez nous. C'est vraiment une œuvre intérieure. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Cette régénération est grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ. Cette régénération, mes amis, si vous lisez un jour la Bible et que vous l'étudiez un peu plus, vous allez voir que c'est déjà une promesse dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà penser à cette problématique de l'être humain. En Genèse chapitre 3, on voit déjà l'espérance de quelqu'un qui viendra écraser la tête de serpent et de Satan. Et quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous voyez un Dieu qui est déjà en train de dire « Un jour, je changerai l'être intérieur et la manière de vivre des gens. » Et ça sera quand le Saint-Esprit viendra. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, avec des parenthèses, à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'était une grâce pour le peuple de Dieu. Dieu donnait et envoyait sa loi, sa parole pour les diriger. Mais ce n'était pas encore dans leur cœur. Et cette image de la Pentecôte est une fête juive avant, hein, pas chrétienne. Hein. Et le jour de la Pentecôte chrétienne, au lieu d'envoyer la loi comme il a fait au temps de Moïse avec les 10 commandements, il va envoyer le Saint-Esprit qui va venir à l'intérieur parce que l'homme a besoin d'être transformé à l'intérieur. Et c'est ça. Et ça, c'était des promesses qui étaient déjà écrites. Et l'envoi du Saint-Esprit pour être transformé, c'est une action concrète de Dieu, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Voilà qu'est-ce que le baptême de régénération, voilà qu'est-ce que le renouvellement de l'Esprit. C'est l'œuvre et l'initiative gracieuse de Dieu dans la vie d'une personne. Tout à l'heure, je vous parlais d'une espérance après la mort. Hein, vous savez, quand je vous parlais que toute la création est corrompue et qu'elle attend quelque chose, elle soupire, elle attend quelque chose. Et le texte nous parle de ça au verset 7. Alors regarde le verset 7, il est beau. « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance. » Je vous le répète, un monde sans espérance, mais nous avons une espérance. « Héritiers de la vie éternelle. » Mes amis, vous, nous sommes juste des corps physiques. Nous sommes des êtres spirituels dans des corps physiques. Ça va continuer après. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés. Il dit ici, hein, il y a un héritage qui nous attend. Cet héritage, on pourrait mettre plein de choses. Hein. Je n'ai pas le temps ce matin de développer ça parce qu'il faudrait mettre plein de versets. Mais Paul, surtout, ce qu'il veut faire ici, ce n'est pas forcément développer le contenu de l'héritage. Paul veut plutôt situer où et quand aura lieu ce plein héritage. Et ce plein héritage aura lieu le jour où nous serons dans la présence éternelle de Dieu. Cette vie éternelle est promise à tous ceux qui sont régénérés. Ce royaume de Dieu qu'on parle. Un endroit où il n'y aura plus de pleurs, de cris, de tristesse, de haine. C'est ce que l'Apocalypse explique. Pour finir, cette régénération, ce renouvellement de l'esprit dans la vie des croyants produit des choses visibles. Dans quel but? Afin que le monde voit ce que Dieu a fait. Hein, c'est un peu comme le vent. Comment on sait que le vent existe? C'est parce qu'on voit ses effets pour qu'il agisse. Mais personne ne peut voir le vent. C'est ce que Jésus explique un peu à Nicodème dans son face-à-face. Alors la grâce de Dieu conduit à une vie de bonnes œuvres. Ça, c'est le verset 8 et on finit avec ça. Cette parole est certaine. Donc tout ce que je viens de t'expliquer sur la sainte doctrine, sur l'initiative de Dieu dans la régénération et dans le salut, voilà, je veux que tu affirmes ces choses, Tite. Il faut que tu prêches ça. Il faut que tu rappelles ça aux chrétiens. Afin, dans quel but? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc cette initiative souveraine et gracieuse de Dieu dans la vie d'une personne doit se manifester parmi les hommes, par la foi de la personne et par une nouvelle manière de vivre. Parce qu'ils ont cru, hein, nous dit le texte. La première chose visible c'est de croire. Nous étions morts. Nous ne pouvions rien faire par nous-mêmes. Même la foi, c'est un don de Dieu. Il est venu nous régénérer. Et la première chose pour voir si je suis vraiment régénéré, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Je crois. Je crois que Christ est mon Dieu. Je crois que Christ est le Dieu sauveur. Je crois qu'il est mort à cause de ma désobéissance et de mon péché. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il n'y a aucun autre moyen de salut que Christ. Mes amis, on va aller faire le test, si vous voulez, après. On va toquer dans mes voisins à gauche, dans mes voisins à droite. Et on va leur poser des questions sur qui est Christ et sur tout ce que je viens de lire et de ce que je crois. Ils ne vont pas croire ça, parce qu'ils sont morts spirituellement. J'étais comme eux. Je me parle pas de ces choses-là. Mais quand cette œuvre invisible, extraordinaire, cette grâce de Dieu a touché mon âme, mon cœur, alors ensuite j'ai verbalisé des choses qui me dépassaient. Je crois que ce que la Bible dit est vrai. C'est déjà un grand pas. Hein? Cette personne croit aussi qu'elle a été justifiée, pardonnée pour vivre selon les justes exigences de Dieu pour son bien. D'autres fruits visibles dans notre passage, versets 1 et 2. Hein, les premiers fruits vraiment visibles de la régénération, c'est la repentance et la foi. Mais après, il y en a plein qui arrivent. Et on les voit dans les versets 1 et 2. Être soumis aux autorités, aux magistrats, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà des fruits visibles de qu'est-ce que de la régénération. De manifester des qualités de Dieu dans sa propre vie. Et tout ça, c'est un combat de chaque jour. C'est un combat de chaque jour. Certains, des fois, me disent, mais les non-chrétiens sont quand même plus, ont une éthique plus élevée que les chrétiens. Je leur dis, c'est vrai. C'est vrai. Pas tous, mais c'est vrai. Mais ce n'est pas l'éthique qui détermine notre salut. L'éthique de ce monde, la source est toujours l'homme. Et ce n'est pas ça qui sauve. Pas nos œuvres ou nos fruits de justice. C'est la régénération. C'est pour ça que tout croyant régénéré devrait avoir une éthique bien supérieure aux personnes de ce monde. Pour refléter qui est Dieu. Et surtout pour ne pas s'abîmer. Parce que le péché, mes amis, s'abîme toujours. Combien le péché détruit. Ne croyez jamais que dans le péché, il y a des choses qui vont vous apporter de la joie durable. Le péché, c'est ses conséquences vous rattraperont toujours. Toujours. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'initiative gracieuse de Dieu dans ma vie, par le Saint-Esprit, qui m'a libéré de l'esclavage du péché. Je ne suis plus une victime du péché. Le chrétien est capable de mener une vie qui soit agréable à Dieu selon les normes de Dieu. Et tout ça, c'est pour notre bien. Quand vous dites à vos enfants, ne touche pas ça ou ne fais pas ça, c'est parce que tu les aimes, tu sais que ça va les abîmer. Et quand Dieu dit, ne fais pas ça, c'est parce qu'il t'aime. C'est pour ton bien. Avant d'apporter une conclusion plus personnelle à mon fils, que j'ai pris le temps d'écrire, j'aimerais finir avec vous avec un autre passage de Tite. En fin de compte, c'est juste le passage qui précède. On aurait pu commencer avec ça, mais je vais finir avec celui-là. C'est pour expliquer encore l'initiative souveraine et gracieuse de Dieu. Regardez ce que dit Paul à Tite au chapitre 2, verset 11. On est dans le même contexte. Hein. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Manifestée en qui? En Jésus-Christ. Voilà ce qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu. Voilà ce qu'elle nous enseigne, l'initiative souveraine et gracieuse de Dieu. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et tout cela, c'est possible parce que le Saint-Esprit m'a régénéré et a fait de moi quelqu'un de nouveau pour vivre ces choses-là. Et on doit attendre quoi? On doit attendre la bienheureuse espérance, la vie éternelle, dans laquelle nous consommerons pleinement ça, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a fait pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple, qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tellement beau ce passage. Je vais finir avec toi. pense que je vais le lire. J'aimerais t'encourager, Joachim, à garder précieusement dans ton cœur cette vérité, parce que je crois que rien ne pourra t'apporter plus d'humilité et de joie véritable. C'est un vrai combat, l'humilité et la joie dans ce monde. Que Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a régénéré, et ce n'est pas à cause de tes mérites, ne crois jamais ça, ou de tes efforts, mais uniquement à cause de sa bonté, de son amour et de sa miséricorde. Grave ça dans ton cœur, à cause de ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Il t'a donné la capacité aujourd'hui de vivre cette nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Alors ce sera un combat de chaque jour, mais ce que Dieu a commencé en toi, il accomplira jusqu'au bout, il accomplira jusqu'à la perfection. Et un jour viendra où tes yeux verront Jésus face à face. Un jour, nos yeux verront le Christ face à face. Amen. Je vais laisser...